c'était sa quatrième tentative de réforme de 14e siècle, ce qui était témoin de, manifestement, de choses qui n'allaient pas, qu'il fallait régler. Est-ce que vous pourriez repréciser quels sont les éléments, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas suffisamment bien, hein. Ça, c'est le premier point. Et le second point, vous avez listé la série des congrégations, l'émergence des congrégations 488, c'est ça à peu près?
Oui.
Et j'ai noté qu'il y avait une congrégation pour le scriptur, les écritures, je crois. Quelque chose comme ça.
Je vais déjà reprendre ça.
Ouais.
C'est ça.
C'est tout. Là. Alors, ça me paraît très intéressant que la l'écriture romaine de l'époque ait intégré et créé une congrégation sur ces problématiques-là, qui était relativement nouvelle, puisqu'il y a une révolution technologique à l'époque.
Ah oui, et c'est la presse, oui.
La
oui,
presse.
Oui, oui. L'imprimerie, oui.
L'imprimerie, donc, 1588, on n'est pas encore trop loin de la naissance de l'imprimerie, et c'est pris en compte, c'est saisi par, à l'époque par l'intelligence de la curie romaine. Il ne semble pas qu'il y ait aujourd'hui encore d'organisation dans la curie romaine qui s'occupe des nouvelles technologies. Or, c'est une révolution au moins aussi majeure que celle qu'on a vécue à la Renaissance avec l'évolution de l'économie. Donc, peut-être notre position là-dessus.
Alors, je commence par la deuxième et je vais remonter à la première. Alors, la congrégation de l'imprimerie, c'est lié surtout à l'activité de l'évangélisation de la mission. Parce qu'à Rome, on imprimait dans plusieurs langues des textes. Et c'était la typographie liée, on appelait du Vatican, parce que c'est trouvé près du Vatican. On imprimait dans les plus disparées langues du monde. Parce que, aussi en Asie et après en Afrique, les premières grammaires des langues locales ont été écrites par des missionnaires. Une autre fois, on devait faire une visite à l'archive, aux archives des propagandes fines, parce qu'on trouve la plus ancienne documentation conservée des plusieurs pays qui sont vraiment loin dans des autres continents. Les premières sources écrites sont chez nous, à Rome, dans la propagande fide. Ce sont les rapports, d'abord les rapports des missionnaires qui parlent de la culture, de la langue, etc., etc. Mais on devait écrire les catéchismes dans les différentes langues. C'est dans l'inculturation. Et c'était la typographie la plus importante de l'époque. On était vraiment avant. Maintenant, je vis la communication sociale, la dernière, quand je parle souvent avec des amis journalistes italiens, aussi des autres pays qui sont romains, on me dit toujours et souvent que l'information religieuse est en retard. Toujours en retard. Et oui, c'est un problème, c'est ça. Maintenant, nous avons la secrétaire pour la communication. Quand on veut donner la direction, mais c'est surtout une coordination et pour une coordination surtout. Mais nous ne sommes pas les premiers à quelque chose. On doit dire. L'autre question sur les réformes. Qu'est-ce qui ne passe pas? D'abord, l'introduction. Je vois que nous sommes aussi dans la même situation dans les États. Et combien de républiques vous avez eues en France dans les derniers siècles? La cinquième, la troisième, la quatrième, la cinquième, maintenant nous sommes dans la cinquième, trois républiques. Combien de commissions de réforme vous avez eues en France? La commission
d'Italie. Un expert.
L'expert qui est dit. L'expert.
J'ai arrêté de compter.
Alors, combien de fois? Aussi en Italie, nous avons une des commissions bicamérales, un référendum l'année passée. Nous, en Italie, nous parlons maintenant de la Troisième République, mais c'est toujours la Première République dans la structure. de l'État. Nous sommes en général dans un moment de l'histoire dans lequel on va repenser la structure de la convivance sociale. Aussi la démocratie, qui est plutôt récente dans le monde du demi-siècle, il y a une évolution de la démocratie de la représentance. Vers quelle direction nous ne savons pas. Nous avons des démocraties occidentales, par exemple la démocratie en Russie, en Turquie, mais ce sont différentes des démocraties occidentales, de la manière de la représentation du pouvoir. Alors, nous sommes on parle chez Rouge des sciences politiques d'une crise de la représentance démocratique. Nous sommes dans une nouvelle vision à gérer les rapports humains sociaux. Aussi dans l'Église. Parce que l'Église de l'époque actuelle est une Église vraiment présente dans la société, dépend du contexte social et est, pour moi, tant historique, moins capable de donner une direction. Dans les siècles passés, il y avait une confrontation Église-État et l'Église qui pouvait donner une direction aussi. L'État moderne commence dans l'imitation de l'Église. Tout s'est structuré. C'est la thèse majorité de l'historiographie. Mais maintenant, c'est l'Église qui a imité l'État. Quand l'État et la société imitent, l'Église va imiter l'État et la société, c'est une crise générale. Imitation des structures générales, mais aussi imitation des idées. On va tout rebâtir. Hier, il y a eu un discours du cardinal secrétaire d'État qui a parlé au niveau du droit humain, des cardinal Parolin, qui ont doit penser à donner un nouveau fondement au droit. Parce que si vous pensez des listes des droits humains, sont des listes qui vont toujours augmenter et qui ne sont pas inclusives de toutes les pensées philosophiques. Par exemple, l'Église catholique a plusieurs problèmes sur les dernières listes générales des droits humains. Alors, qu'est-ce que sont les droits humains essentiels sur lesquels on peut avoir un partage général.
Consensus,
merci. Alors, mais dans l'Église, nous aurons les mêmes problèmes. Je retourne à la question. 4 réformes, parce que les réformes sont vraiment contextuelles, contingentes. À des questions contingentes, on va donner une réponse contingente. Et la contingence est toujours plus forte. Oui, on parle de la postmodernité, de la réalité liquide. C'est-à-dire que je peux changer toujours. C'est une idée générale aussi qui est passée aussi dans les idées anthropologiques qui ne sont pas partagées par l'Église catholique. Maintenant, je suis homme, demain femme, après demain homosexuel, un jour après bisexuel. Il y a une idée que je peux changer toujours comme je vais. C'est la fluidité générale, comme la mentalité générale. Et c'était une question anthropologique qui va aussi passer dans l'anthropologie des institutions. Je sais que ce sont des questions délicates à parler. Et je préfère parler d'une manière libre, alors c'est ouvert. Un vrai partage. Mais c'est une question sociale, philosophique, anthropologique qui va redémarrer aussi sur les questions institutionnelles. On change toujours. Et quels sont les problèmes? On parle toujours des mêmes problèmes depuis un siècle. Trop de décentralisation. On doit fermer moins de décentralisation, il y a toujours plus de décentralisation. On va décentraliser, quand on cherche à décentraliser, après on va reprendre la centralisation qui a le pouvoir. C'est toujours un problème important.
Georges Carmelet, je suis volontaire. La problématique, elle ne serait pas par le fait qu'on parle souvent d'église universelle, mais ne serait pas devenue église temporelle. La temporalité de l'église aurait pris le dessus par rapport à son universalité, ce qui fait qu'on sera dans les contingences, ou les mêmes contingences que les états membres.
Quelqu'un vous parlait des temporels,
c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de traiter des questions qui sont au-delà des questions sociales et politiques des êtres humains, ou de se préoccuper de ces questions-là, qui sont des questions normalement du spirituel, du salut, l'oubli, c'est peut-être trop concentré aujourd'hui sur les questions temporelles.
Questions actuelles, questions sociales, par exemple.
C'est le quotidien, regardez, les crédits de l'Église, c'est sur les questions sociales. L'État de la majorité de la plupart du monde va reconnaître un rôle à l'Église pour les questions sociales. Je ne sais pas, en Italie, nous avons les soutiens économiques à l'Église par la souscription d'une taxe, les 8 pour 1000. L'État se va ou à l'église, ou à l'État, ou différentes églises, on peut décider. La publicité pour faire signer les personnes, les versements pour l'église, sont toutes des publicités sociaux. L'aide aux pauvres, aux anciens, aux jeunes, aux immigrés, aide aux pauvres en général. C'est des crédits qui a l'Église dans les contextes actuels. Mais c'est contingent, c'est vraiment contingent. On ne fait pas la publicité qu'on voyait un chant grégorien, ou une messe, ou une retraite. Ça n'est pas ça. Pour la publicité, pour l'argent. Mais l'Église est pour ça, pour la spiritualité. Alors, il y a aussi un conflit. Dans les matières qui sont liées aux laïcs de l'Église et les matières liées à l'épiscopat ou au clergé. Oui, on va bien balancer.
Quand on regarde la marche à l'Assemblée nationale, j'ai prolongé deux questions dans les deux. Une première sur justement la tension spirituelle temporelle. Quelle est aujourd'hui la doctrine officielle de l'Église? Je pense, moi j'ai en tête le même Santa, mais la théorie des deux glaives. Quelle est aujourd'hui la position officielle de l'Église? Est-ce qu'on considère encore que le spirituel, enfin que le temporel doit être au service du spirituel ou se soumettre d'une manière ou d'une autre? Et c'est qu'on ne parle pas en termes de doctrine, vraiment que la position officielle. Et la deuxième, dans l'évolution, vous avez écrit de la curie, on voit bien la professionnalisation de la curie romaine. Et comment est-ce que ça a évolué et comment aujourd'hui vous réussissez à trouver cette tension entre d'un côté des clercs dont la spécialité, si j'ose dire, la profession n'est pas d'administrer l'Église. C'est d'abord effectivement d'avoir une réflexion spirituelle et le besoin d'avoir des professionnels d'administration. Et est-ce que ça ne plaît pas quelque part pour une forme de laïcisation de l'administration curiale?
Je commence par la deuxième pour arriver à la première. Alors, la professionnalisation est nécessaire. Vraiment. Et maintenant, on cherche aussi, au contraire, à préparer des personnes qui vont rester une petite période de leur vie à la curie. Mais ça serait un problème, à mon avis. Parce que, peut-être, c'est un peu pour la personne, pour un prêtre qui paye une CLC, un bon ministère spirituel, la Saint-Paroisse, c'est plus gratifiant au niveau humain. Avec l'État, ni avec les personnes qu'avec les papiers, c'est sûr. Au niveau pour une personne qui a choisi d'être célibataire, pas pour les papiers, mais pour servir des personnes. Mais si nous n'avons pas professionnalisation, l'Église va perdre sa présence intelligente dans le monde. Parce que pour avoir une personne vraiment experte, on doit passer combien des ans à la former. Je parle d'un petit professeur comme moi, c'est ma 15e année à l'université. Avant, j'ai dû étudier philosophie, théologie, histoire, et 10 ans des études universitaires. 15, un quart de siècle. J'ai aussi activité pastorale, ça me fait du bien, j'espère faire du bien. je laisse mon travail pour avoir une autre personne, simplement comme expérience pendant 25 ans. Alors, on demande toujours plus avoir des professionnels pastoraux au Vatican. Oui, mais non. Les meilleurs professionnels du Vatican du XXe siècle étaient des courriéristes qui étaient entrés avant 3 ans à Paris, mais en même temps, ils travaillaient avec les enfants, les jeunes, dans les pauvres places de Rome. Alors, c'est l'équilibre personnel qui m'a aidé. Et si nous pensons que le gouvernement général dans le monde, comme toujours, est un gouvernement fait par des élites, on doit avoir une élite aussi ecclésiastique. Il y a des places qui sont qui peuvent être couvertes par des laïcs, bien sûr. On va dans cette direction. Mais je ne sais pas si l'Église peut soutenir cette situation-là. Parce que quand on va prendre un laïc comme un champ, et quand les cardinals perdent, qui était le cardinal secrétaire de la secrétaire pour l'économie, a fait, il est australien, il a choisi des personnes techniques du monde laïque pour les faire venir à Rome. Alors, il y avait une personne qui avait comme stipendio, salaire, 15 000 euros par mois. Il y avait des scandales de la Curie sur le journal. 15 000 euros. Mais un père, dans une autre société, prend beaucoup plus. Alors, l'Église, s'il veut prendre des laïcs, doit traiter comme les autres. Même niveau d'argent, des bénéfices, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a des ressources. Parce que si on va travailler, on ne peut pas faire de la bénéfice, être bénévole. Parce que bénévole, on utilise notre énergie. Dalle travail. Allora, per le questioni economiche, per la banca, le IORA, il gouvernement dell'Età, ça serait bien avoir des laïcs, peut-être, selon le versio, tu es sec et vous devez penser aussi, quand il est prêtre, notamment des personnes qui ont une professionnalité avant l'entrée. Je vois des gens que j'ai préparés ici, qui sont tous des diplômes universitaires, déjà des expériences de travail. Quelqu'un était aussi avocat d'État ou diplomatique ou dirigeant d'entreprise. Alors, il y a aussi des prêtres qui ont professionnalisation. Et un prêtre peut donner plus de temps qu'un laïc. Parce qu'un laïc a une femme, des enfants, ou un mari, un époux, ça dépend. Mais maintenant, nous avons toujours plus de laïcs. Par exemple, dans les nouvelles de Caster, nous avons les sous-secrétaires qui sont des laïcs de la majorité des femmes. Romaine, c'est moi à ce moment, qui était déjà sur Rome, qui avait déjà des charges. Mais il y a cette direction-là. Mais on doit voir sur la longue période, pour l'économie, si tu vois avoir des professionnels, tu dois payer. Première question, et j'arrive.
J'ai déjà le oublié, temporel c'est... spirituel et quelle est la doctrine de l'Église sur le rapport entre le temporel et le spirituel.
Et alors, c'est tout une doctrine qui va être déclinée de cette manière-là. Mais maintenant, après la Révolution française, plutôt que la Révolution américaine, on parle de la question des droits. La question des droits, c'est la grande question maintenant. C'est le fondament à donner au droit. Quel est le fondament? Alors, dans une manière démocratique, on parle d'un droit positif qui est déterminé par des votations. Une majorité fait déterminer une loi. Le fascisme et le nazisme ont été allés au pouvoir par des votations démocratiques. Alors, ils ont fait des droits selon les lois de l'État. Alors, les droits positifs en lui-même pour la conception catholique n'est pas suffisant. Les papes de Pie XVI a beaucoup écrit et parlé sur ce sujet, c'est la pensée du magistère plus complète sur la question. Vous pouvez ici aussi au bout de bas allemand, ne suffit pas la majorité. Les critères, n'est pas la majorité. Dans les concepts catholiques, la loi positive doit répondre au droit naturel. C'est la question. Quel est le fondement des droits? Quel est le fondement des lois? C'est un droit naturel qui est plus grand et qui va précéder les votations de la majorité. La majorité, à la majorité, ne détient pas la vérité. C'est là la question. C'est une question philosophique, une autre fois anthropologique. Pour faire une loi, une bonne loi, ne suffit pas la majorité des consensus. Mais la loi doit se référer à quelque chose qui est plus grand de la loi elle-même. Et si sur les droits naturels, on peut trouver un consensus qui va au-delà de la pensée catholique, la pensée catholique fait un autre passage qui ne peut pas être toujours partagé par des éthiques pas croyantes. Et parce qu'ils disent, la pensée catholique, que les droits naturels, a un fondement et enraciné dans les lois divines, la loi des dieux. Alors là, c'est posé une autre question, qui doit interpréter la loi des dieux, qui doit interpréter les droits naturels. Alors nous sommes dans un monde plural dans les éthiques, mais la grande question, ce sont des constructions du monde technique qui sont allées au-delà de l'éthique. Je m'en souviens parce que je suis aussi spécialisé sur le pontificat des droits de Benoît XVI pour des publications que j'ai fait. Et à la dernière partie de son pontificat, il y avait des philosophes libéraux et philosophes marxistes qui avaient fait des appels au pape pour donner une vision communautaire des différentes éthiques catholiques, chrétiennes, laïques, communistes, pour les questions posées par la technique. Au niveau des rapports entre les religions, et souvent sur des questions des valeurs, les catholiques sont aussi retrouvés avec les musulmans pour des grandes visions de l'homme. Et aussi dans les questions liées à l'homme, vous dites uno ou non? Homme, vous dites? Il y a eu des alliances. Aussi, alliance catholique orthodoxe, catholique musulman, mais au début du XXIe siècle, il y avait aussi les laïcs, les marxistes, qui avaient fait aussi des affaires publiques pour trouver une convergence devant un monde qui va, avec la technique, à toucher l'homme, dans des cellules, au niveau biologique, qui va changer la société, va changer l'anthropologie. Ce sont des grands débats de notre époque, par exemple aussi des grands débats de l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire, il y a une grande question morale, éthique. Et là, on va réfléchir avec les différentes éthiques qui sont dans le monde, et l'éthique religieuse, et la source religieuse, a quelque chose, une contribution au domaine. Pardon, mais...
Vous avez fait référence à Roman tout à l'heure, à la modernité qui est-ce que vous ne pensez pas justement que le problème de l'Église, c'est de s'être engouffré là-dedans et d'avoir suivi le mouvement, d'avoir suivi ce tempo-là, alors qu'autrefois elle donnait un tempo, ou au moins, sur certaines grandes questions, elle ne soumettait pas dans l'urgence Et dans ce niveau-là, elle prenait le temps de donner une réponse et pas donner une réponse immédiate. Est-ce que ça, quelque part, sans aller à dire que ça, c'est des traditionnalistes qui ont raison parce que eux, je peux aller dans le même pot, ça serait une solution pour que l'Église reprenne une place qui permette justement de donner un tempo plus lent et de sortir de cette forme au cas où l'ambivalence.
C'était une question importante. C'est la question générale. Nous n'avons pas maintenant des grands penseurs. Si je dois dire quel théologien, quel philosophe. Et en France, vous avez plus des anciens hommes qu'en Italie, une certaine efficace. Maintenant, nous n'avons pas des écoles théologiques, philosophiques. Peut-être quelque chose de juridique, mais dans certains secteurs. Alors, il y a une faiblesse de l'Église parce qu'elle ne trouve pas à donner une vision générale qui va être attractive. Nous n'avons pas. Je dois dire, nous faisons toujours moins de formation de la classe dirigeante. C'est un grand problème. L'Église va suivre les autres par une direction. Moi, en tant que catholique, je me pose la question. Mais aussi trouver des personnes au-delà de l'Église qui peuvent donner une grande lecture inclusive des différentes sciences, nous n'avons pas. Et oui, jusqu'à la moitié du XXe siècle, nous avons eu des grands penseurs. Aussi, au niveau théologique, on fait des débats chez nous. En Allemagne, Balthasar, aussi Ratzinger. Mais nous n'avons pas une nouvelle génération. Nous sommes des 60 ans, 50 ans, 40 ans, qui sont des points de référence, qui vont donner une pensée structurée, pas occasionnelle, contingente, mais structurée. Nous n'avons pas. C'était une question qui est plus grande que l'Église. Et l'Église, c'est dans ces temps, elle n'est pas capable à sortir. Trop clair. Je suis optimiste par nature. Je suis optimiste. On doit travailler, on doit tourner à la formation des jeunes avec une alliance intergénérationnelle. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont une belle expérience, mais qui ne sont pas dans les conditions à donner de l'expérience aux jeunes. On doit. Je vois aussi un peu dans le monde catholique français, il y a aussi des écoles de formation des jeunes, on peut l'appeler université d'été, comme ça. Il y a quelque chose dans les dernières années, mais je ne sais pas dans quelle direction. Aussi en Italie, dans les dernières années, sont grandi, poussière au niveau des arts, poussière école des formations politiques. Mais il y a un mouvement, mais il n'y a pas une vision, une direction bien donnée. Alors, ça nous dit qu'il y a une exigence qui traverse beaucoup de milliers, rédigée par rédigée. Mais nous ne trouvons pas encore une réponse intéressante. C'est une crise plus grande. Mais il y a une idée à changer.
Père, Julien Charles Morin, communauté Saint-Martin, à Taïwan. Clément vous a posé la question concernant les laïcs qui travaillaient à la Curie. On pouvait avoir un pourcentage que vous avez connaissance?
Alors. Parce que les Vatican, en plus indépendant, la majorité sont des employés laïcs, mais dans quelle classe? Alors, ce sont des places minoritaires, d'employés comme les concierges, nettoyer les bureaux, les jardins. Et, par exemple, un vrai bon niveau, ce sont les musées du Vatican. Et le directeur est une femme. Et le musée du Vatican est parmi les meilleurs au monde. Qu'on a produit, conservé, organisation et nombre numéro de visites. Mais dans la clinique des sciences strictes, vrai et propre, sauf que les sous-secrétaires que j'ai nommés, 3-4 laïcs, les autres laïcs ont des, sont des employés un peu plus bas. Oui. Un changement, il y a eu il y a des mois, et avec la nomination du premier recteur de l'Université Pontificale Romaine laïque, le recteur de Latran, l'Université de Latran, Saint-Jean-Latran, et un laïque expert en droit international, qui était déjà professeur de l'université. Les bruits disent que c'était le pape qui voulait un laïque. La personne a dû accepter la volonté du pape. Je ne sais pas si c'est vrai, hein? Mais oui, on dit ça. Et, alors, il y a un changement, mais on va attendre. La langue vient. Et oui, la dernière, après, je dois, si. Je dois recevoir mes étudiants dans quelques minutes.
Ma question est, pardonnez-moi si elle est un petit peu personnelle, est-ce que l'expertise et la connaissance que vous avez de l'Église, de son histoire, de sa politique, est-ce que c'est de nature à renforcer votre foi personnelle?
Oui, parce que dans l'histoire, on peut voir tous les péchés des gens, tous les aspects plus misérables, les personnes qui sont dans l'Église. Et alors, en tant qu'historienne croyant, je vais au centre de l'Église. On n'a jamais vu ça dans l'Église. On a vu autre chose. Dans les élections des papes, les clercs ont tué les personnes. Il y avait tout ça. Alors, l'histoire va se donner une expérience personnelle. Quand on croit qu'on va changer le monde maintenant, on parle toujours, on va améliorer. Oui, mais nous connaissons, nous sommes toujours pécheurs. Et l'idée aussi de l'histoire du christianisme. On parle de la mission du temps, de l'histoire du christianisme est linéaire. Mais ce n'est pas linéaire pour dire que nous allons toujours plus proches de la perfection. Mais chaque génération va recommencer la ligne. Nous ne sommes pas plus proches des liés qu'il y a 1000 ans, ou nous sommes moins proches des liés que la génération des apôtres. C'est toujours un défi personnel. Et dans l'histoire, en tant qu'historien, on le voit de manière claire et va donner certaines libertés. Oui, pour moi, l'histoire m'a aidé à être libre. Oui. C'est personnel la réponse. Merci.